C'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit « Allahu Akbar ». Après ça, ils ont dit que « Où est l'argent ?» Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel+. Aujourd'hui, au sommaire, situation toujours tendue dans le nord malien. Assemblée annuelle des Nations Unies, interview des présidents nigériens et burkinabés. Interpellation des anciens ministres de Blaise Compaoré au Burkina. Enfin, rubrique santé, nouvel espoir dans la lutte contre le paludisme. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel+. Restez avec nous. Le processus d'application de l'accord pour la paix et la réconciliation est bloqué à cause des divergences entre les différents acteurs. Il y a toujours des combats entre le Gatia et la CMA dans la région de Kidal, des combats qui ont fait plus de 20 morts et une dizaine de blessés le week-end dernier. Analyse de la situation avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Les Gatia et la CMA continuent avec des affrontements pour le contrôle de la région de Kidal. Depuis le mois de juillet, ces deux groupes ne s'entendent plus. Dadji Touré, ressortissant des régions nord du Mali.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a combien de groupes? MNLA, NLA, SPU. Il y a toutes sortes de groupes que vous. Donc la première des choses, on ne peut pas dire qu'on est. Le moment où on ne prend pas la main on prend les prêts dans la main dans le sac, ils ont des cartes qu'ils montrent pour dire que bon, je suis de tel groupe, je suis de tel groupe. Le moment où on ne les prend pas, ces mêmes personnes peuvent attaquer. On ne connaît aucun pays dans le monde qui va dire que bon, voici, on négocie avec. Certaines personnes ont des droits sur une partie, d'autres n'ont pas de droits sur d'autres parties. Cela n'est pas admissible.
La bataille pour le leadership dans la région de Kidal n'est point une surprise.
Moi, c'est Dr Lamine Sandy Aydra. Je suis enseignant chercheur. Bon, moi, je crois que cette tension est prévisible. Ça veut dire que chacun sait qu'il est soutenu quelque part. Et dans cette affaire, c'est la France qui ne dit pas encore la vérité. Parce que vous ne pouvez pas soutenir l'accord et vous cacher de l'autre côté pour soutenir un des belligérants. C'est pas possible.
Pour certains Bamakois, ce conflit oppose deux grandes communautés de la région de Kidal, à savoir les Ifogas et les Zimgad.
Je suis Yaya Diarra, étudiant en philosophie. Ce qu'ils doivent comprendre, c'est deux groupes, c'est-à-dire la guerre ou bien le combat qu'ils sont en train de mener entre eux, ils sont en train de tuer des Maliens. Il faut savoir que tous ces deux groupes sont des Maliens. Donc, c'est-à-dire la guerre, c'est entre deux groupes maliens. Ils doivent comprendre que ce n'est que des familles et ce n'est qu'un pays qui sont en train d'être décimé de la situation.
À la base de ces affrontements entre Imgad et Ifogas, il y a la mise en place des autorités intérimaires. Smiti Ag Akado, président de l'association malienne pour la sauvegarde de la culture Bella.
Comment vous pouvez prendre des hommes qui ont fait tant de mal à ce pays-là et dire que ce sont ces mêmes hommes-là qui vont être responsabilisés par rapport à des régions, par rapport à des populations qui ne les ont pas mandatés? On l'a dit en son temps. Ces gens-là, ils n'ont pas la légitimité requise pour conduire, n'est-ce pas, ce processus-là qui leur a donné trop de responsabilités. Vous voyez, entre eux-mêmes, ils commencent à s'entre-déchirer. La solution, si le Mali entier ne pouvait pas s'asseoir pour trouver une solution à ces problèmes, que les régions du Nord, au moins dans toute leur sensibilité, dans toutes leurs composantes, s'asseyent et dire exactement voilà ce que nous voulons. Malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Pour le moment, le gouvernement malien, encore moins l'administration, n'ont fait des déclarations. Tous attendent ce mercredi, date à laquelle doit se tenir la prochaine réunion du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM. Direction New York à présent, où se tient la 71e Assemblée Générale de l'ONU. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, est présent pour tenter d'attirer les investisseurs chez lui. Jacques Aristide a pu le rencontrer et lui demander quelles étaient les réformes et les changements que Niamey avait initié pour créer un meilleur climat des affaires.
Bien, je vous remercie. Je dois dire d'abord que le Niger a une économie dynamique. Ces 5 dernières années, le taux de croissance annuel de l'économie du Niger a été de 6%. Et nous prévoyons pour les 5 années à venir un taux de croissance de 7%. Et c'est pour cela que, ici à New York, j'ai essayé de sensibiliser les investisseurs pour qu'ils viennent profiter de ce taux de croissance que connaîtra le Niger les années à venir. Je les ai invités à venir investir dans beaucoup de secteurs, dans le secteur des infrastructures, dans le secteur des ressources naturelles, dans le secteur de l'agriculture. Et je leur ai indiqué également que nous avons un bon environnement des affaires au Niger. Nous avons un bon climat des affaires. Il y a beaucoup de réformes qui ont été entreprises et qui sont mises en œuvre dans le cadre du Doing Business. Par exemple, la facilité avec laquelle aujourd'hui on crée les entreprises au Niger, on a simplifié les procédures, on a réduit les coûts, on a réduit les délais de création d'entreprises. Nous avons également entrepris des réformes dans beaucoup d'autres domaines, comme le domaine de transfert, par exemple de la propriété, c'est important pour les investisseurs, comme le domaine de l'exécution des contrats. Nous avons mis en place dans le pays des tribunaux de commerce, ce qui n'existait pas auparavant. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été entreprises dans le domaine du commerce transfrontalier, des simplifications de procédures pour les importations ou les exportations, des réductions de contrôle, par exemple, sur les routes. Mais enfin et surtout, nous avons fait beaucoup de réformes fiscales. Le code général des impôts a été révisé. Et il est très incitatif, ainsi que le code des douanes, ainsi que le code des investissements, le code pétrolier, le code minier. Nous avons donc vraiment des facilités fiscales, des incitations fiscales très importantes pour les investisseurs, et je pense qu'ils l'ont compris.
Le président américain organise ce mercredi son dernier forum des affaires, États-Unis-Afrique. Alors, si on peut le dire ainsi, c'est un sommet de Barack Obama avec son ultime sommet avec les dirigeants africains avant qu'ils ne quittent la Maison-Blanche. Qu'attendez-vous de cette rencontre, de cette réunion ?
Ce que j'attends de cette rencontre, c'est que les investisseurs américains soient plus agressifs, viennent davantage investir en Afrique de manière générale et au Niger en particulier. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. On voit bien aujourd'hui les pays africains font partie des pays du monde qui ont les taux de croissance économique les plus élevés. Donc nous invitons les investisseurs américains à venir partager cette croissance avec nous.
C'était le président du Niger, Mahamadou Issoufou. Et toujours, aux assemblées annuelles des Nations Unies, Jacques Aristide a également pu s'entretenir avec le chef de l'État burkinabé. Roch Marc-Christian Caboret a présidé une réunion de haut niveau sur l'initiative pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique dans le Sahel. Les discussions ont porté sur les politiques et stratégies, ainsi que sur l'engagement des États pour atteindre cet objectif. Le président Roch Marc-Christian Caboret.
Au-delà du programme SWED qui est développé au Sahel, je voudrais simplement dire que d'autres pays qui ne participent pas à ce programme ont montré que la première des questions pour pouvoir effectivement investir dans la jeunesse et dans les femmes, c'est qu'il faut de la volonté politique. Et cette volonté politique, c'est une volonté qui doit venir des chefs d'État.
Les jeunes représentent une frange importante de la population africaine. Alors que doivent faire les pays de la sous-région, plus particulièrement et plus généralement le reste de l'Afrique, pour empêcher que les jeunes tombent dans le piège terroriste ?
Nous avons dit que le terreau du terrorisme, justement, c'est le chômage des jeunes. C'est pourquoi nous devons toujours investir dans l'éducation, dans la santé des jeunes, dans leur formation et dans leur insertion dans le développement de nos pays. Tant que cela ne sera pas atteint, nous aurons toujours justement le recrutement des groupes terroristes sur des jeunes qui sont désœuvrés et qui ne savent que faire. Tout comme ces jeunes qui traversent la mer tout le temps pour aller travailler dans les pays européens et qui malheureusement perdent la vie par centaines au cours de cette traversée.
Le président du Burkina Faso, Roch Marc-Christian Caboret. Toujours, La justice burkinabé a procédé récemment à l'interpellation d'anciens ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Ces derniers ont été entendus par la gendarmerie avec un mandat de dépôt pour l'ancien Premier ministre dans l'enquête sur la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014 au Burkina Faso. Des détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Les ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré ont été entendus sur leur implication dans l'insurrection populaire d'octobre 2014 à travers le Conseil des ministres autorisant la modification de l'article 37 de la Constitution sur la limitation des mandats. Parmi les ministres auditionnés figurait notamment celui en charge des réformes politiques, Arsène Boumediene, mais également le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement d'alors, Alain-Édouard Traoré. Selon plusieurs sources, les gendarmes ont voulu savoir le rôle joué par la dizaine de ministre interpellé dans l'avènement de l'insurrection et sa répression. Si certains sont pour l'instant libres de leur mouvement, l'ancien premier ministre Luc Adolphe Thiaw a lui été incarcéré après son audition. Il lui a notamment reproché la signature d'une réquisition autorisant l'armée à maintenir l'ordre avec usage d'armes à feu. Cette inculpation intervient quelques jours après la libération provisoire du colonel Sidi Paré, ancien ministre de la Transition, débarqué pour son soutien au putsch du général Gilbert Dindiéré. Toute chose qui justifie méfiance au sein de la société civile. Hervé Ouattara, leader du CAR, citoyen africain pour la Renaissance, fut le dernier leader qui avait rencontré Blaise Compaoré au plus fort de la contestation.
Est-ce que ce n'est pas une façon pour notre justice ou même pour le gouvernement, en libérant Sidi Paré, il faut le remplacer bien sûr par quelqu'un pour éviter la vindicte populaire. Pour être franc, c'est du folklore. Nous sommes habitués à cette tergiversation. Aujourd'hui, rien ne nous rassure, rien ne nous dit que nous allons finalement connaître réellement ce qui s'est passé le 30-31.
Marcel Tankwano, président du mouvement du 21 avril, le M21, légèrement blessé lors de la marche sur le palais de Kossiam, quoique sceptique, se veut plus mesuré.
D'abord, on dit que mieux vaut tard que jamais. Et Luc Adolphe Thiaw avait signé la réquisition spéciale qui avait demandé à ce qu'on mate des Burkinabés. Je pense que c'est une occasion que la justice burkinabé doit saisir que véritablement on peut faire confiance à cette justice burkinabé.
La population, elle aussi, suit de près l'évolution de la situation avec des points de vue divers.
Plein de choses se sont passées sous nos yeux. On n'a pas eu de justice complète. Donc, on ne peut pas avoir confiance à cette justice-là.
On n'a qu'à laisser la justice-là en même temps. Pour que les pays-là, ça n'a qu'à avancer vite. Sinon, comme ça, là, ça nous met en retard.
Il y a des gens qui sont morts. Donc, la justice-là, il faut faire ça. Les gens qui ont commis les crimes-là, il faut les sanctionner.
Ces instructions sont conduites sous la tutelle de la Haute Cour de justice, une institution qui promet d'en dire plus dans quelques jours sur ce rebondissement, scruté 2 ans presque après les faits par l'ensemble des Burkinabés et de la communauté internationale. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Rubrique santé pour terminer l'émission. Une toute nouvelle découverte scientifique apporte un nouvel espoir dans la lutte contre le paludisme. Le point faible du parasite, responsable de l'infection, aurait été identifié et les expériences menées sur des souris sont concluantes. Des précisions avec Anastasie Tudiech.
Le paludisme, dû à un parasite transmis par les piqûres de moustiques, touche plus de 200 millions de personnes chaque année. Une fois qu'il a infecté son hôte humain, le Plasmodium falciparum, nom scientifique du parasite, évolue en plusieurs étapes, de l'infection du sang à l'infiltration du foie où il mûrit, puis pénètre à nouveau le sang qui l'infecte. Il détruit alors les globules rouges, libérant dans le sang des milliers de parasites filles qui envahissent les autres cellules, perpétuant le cycle de reproduction et d'infection. C'est lors de ce dernier stade que les symptômes du paludisme apparaissent. Très forte fièvre, transpiration excessive, nausées et diarrhée. Plus d'un demi-million d'individus succombent, la plupart sont des enfants, en Afrique subsaharienne. À chaque étape de son évolution, le Plasmodium falciparum, qui peut devenir résistant aux médicaments, change. La plupart des traitements visent l'une ou l'autre des étapes. Mais les chercheurs du Broad Institute dans le Massachusetts et de l'université Harvard ont isolé un élément qui semble être le talon d'Achille de la maladie, selon Stuart Schreiber, membre fondateur du Centre biomédical.
We did discover a novel protein.
Nous avons découvert une nouvelle protéine fabriquée par le parasite, une protéine dont il a besoin pour les 3 étapes de son cycle de vie, et aussi une série de nouveaux composants qui pourraient inhiber la dite protéine.
Stuart Schreiber et ses collègues ont publié leur découverte dans le journal Nature. Après avoir découvert la protéine, les chercheurs ont recensé 100 000 petites molécules à partir desquelles ils ont synthétisé une douzaine de composants qui semblent bloquer la synthèse de la protéine et ce, à chaque étape de son développement, ce qui tue le parasite, sur la souris témoin du moins. Les souris n'ont présenté aucun signe d'infection pendant un mois, délai considéré comme un signe de rémission. Quand les chercheurs ont tenté d'infecter des souris avec le sang de rongeurs anciennement contaminés, ils ont constaté qu'elles n'avaient pas développé de paludisme. Le composant que les scientifiques ont testé était une prise unique par voie orale. Stuart Schreiber ajoute, prudent, que ce qui est efficace sur une souris ne l'est pas forcément sur un humain. Mais il y a de l'espoir.
So I'm the eternal optimist.
Je suis un éternel optimiste, mais je sais que des grands défis nous attendent et aussi de grandes inconnues qu'on ne pourra régler qu'en faisant des expériences.
Des expériences qui comprennent l'analyse des 12 composants, comment ils fonctionnent, combien de temps et si des résistances se développent contre l'un de ces agents prometteurs. En théorie, Schreiber dit que le médicament, qui est efficace aux 3 étapes du paludisme, peut être pris à tout moment du cycle, à la fois comme un traitement et comme prévention. Les chercheurs notent que les patients peuvent rester infectés, même sous traitement. Les informations sur ces composants anti-paludisme sont disponibles pour les chercheurs, en ligne et gratuitement.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la production, Michel Joseph. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel sur VOA Afrique. Nous nous quittons en musique avec le groupe malien Songoy Blues et leur titre Irganda. Le documentaire They Will Have to Kill Us First, sorti l'année dernière, dans lequel ils apparaissent, la vie des musiciens maliens pendant l'occupation djihadiste de 2012, est enfin disponible en DVD et en ligne sur Amazon. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
Baba